Nous sommes dans l'étude de la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous abordons le chapitre 2. On arrive donc à encore un grand passage. Un passage que nous devrions bien connaître. Un passage que nous devrions connaître si nous voulons expliquer à ceux qui nous entourent, l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce, parce que nous allons voir comment l'homme considère, plutôt comment Dieu voit l'homme et ce que Dieu a fait pour l'homme. C'est un passage qui peut être difficile lorsque on n'a jamais entendu ce message, parce qu'il n'est pas très glorieux pour l'homme. Nous avons tendance à vouloir penser que nous sommes de grands êtres. Nous voulons penser que nous sommes peut-être que nous commettons des fautes, mais que ce n'est pas très grave. Dans l'ensemble, nous sommes plutôt des gens bien. Et là, Paul va nous montrer qu'en fait, il n'en est rien. Et lorsqu'on n'a jamais entendu ce message, on peut être offensé, on peut être surpris. Mais nous allons lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 2 jusqu'au verset 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Paul s'adresse à des chrétiens dans la région d'Éphèse, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie orientale. Et à travers eux, il s'adresse à nous et à tous les gens qui écoutent ce message. Et il nous dit qu'en fait, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. On dit que pour donner un témoignage pour dire ce que Dieu a fait dans notre vie, il est bon de dire ce qui se passait avant que nous rencontrions Dieu, avant que nous rencontrions Jésus, et de dire comment nous avons été transformés après avoir mis notre confiance en Jésus-Christ. Et là, c'est un exemple net où il nous donne une description de ce que nous sommes avant de connaître Christ, et puis il va nous montrer ce que nous sommes après que nous rencontrions Christ. D'abord, qui que nous soyons, ce n'est pas seulement les pécheurs invétérés, ce n'est pas seulement les gens qui vivent dans la débauche à longueur d'années, de vie. Tous les gens, tous les hommes, tant qu'ils ne rencontrent pas Dieu, sont morts par leur faute et par leur péché. Et avec ces deux mots, il recouvre un peu tout l'ensemble de ce qui est mal vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est un terme en fait qu'on utilisait dans le tir à l'arc. Si on essayait de viser une cible et qu'on l'a ratée, le mot grec pour dire cela, c'était le mot que nous traduisons par péché. Ça veut dire ne pas arriver au centre de la cible. Et pour ceux qui ont préparé qui ont suivi un cours sur la façon de témoigner, ils savent qu'on prend l'exemple, peut-être aujourd'hui on fait moins de tirs à l'arc, mais on est tous plus ou moins conscients, par exemple, surtout dans la région, du jeu de la pétanque. Et peut-être que parmi nous, il y a des champions, sans doute les Suisses. Les Suisses sont champions en tout. Maintenant, ils ont le maillot jaune dans le Tour de France. Ils vont remporter remporter Wimbledon cet après-midi. Ils ont gagné la Coupe de l'América. Il n'y en a plus que pour les Suisses. Donc, sans doute, Paul est un champion de pétanque. Et lui, quand il va lancer sa boule pour essayer de se rapprocher du cochonnet, il va toucher le cochonnet. Moi qui ne suis pas très bon, je vais jeter ma boule de pétanque et je vais arriver peut-être à 20 cm. C'est loin, c'est difficile, ça roule. La question, c'est de savoir qui a atteint la perfection. Apparemment, c'est encore un Suisse, mais pas vraiment, parce que la perfection, vraiment être au centre de la cible, ce serait de pouvoir avoir la boule en équilibre permanent sur le petit cochonnet. Ça serait vraiment la perfection divine. Mais même Paul, qui est Suisse et qui est bon, il arrive proche. Et la question, c'est lequel d'entre nous a atteint la perfection ? Ben, c'est ni l'un ni l'autre. Même si Paul a fait un arri, un nez, c'est-à-dire qu'il touche la boule, et que le cochonnet est devenu le nez de la grosse boule de pétanque, il n'a pas atteint la perfection. Dieu nous dit que nous devons, pour lui plaire, nous devons atteindre la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous, on dit, oh, ben ça c'est une façon de parler, c'est pas ce qu'il attend de nous, parce que c'est impossible. C'est vrai qu'en tant qu'homme atteint par le péché, ça nous est impossible. Le mot de faute, c'est un mot qui veut dire de franchir la ligne. Nous avons cette tendance à la rébellion dans notre cœur. Il suffit qu'on nous dise quelque chose pour qu'aussitôt on ait envie de le faire. Si vous voulez que les gens touchent le mur, vous marquez peinture fraîche, ne pas toucher. Et aussitôt, les gens vont aller voir si la peinture est vraiment fraîche ou pas. Ça, c'est notre rébellion naturelle. Au point qu'on utilise en psychologie la psychologie à l'envers. En anglais, reverse psychology. Ça veut dire que si on veut vous faire quelque chose, on vous dit de ne pas faire la chose. Si je veux que vous arriviez à 10h30, je vous dis surtout, n'arrivez pas avant 10h30. Je vous interdis d'être à l'heure. Et là, dimanche prochain, vous allez vouloir voir qu'est-ce qui se passe à 10h30. À 10h30, on essaye de commencer, mais on n'est pas encore assez nombreux. Mais un bel exemple de psychologie à l'envers, ça a été pendant l'introduction de la pomme de terre en France. La pomme de terre qui venait d'Amérique du Sud, les gens n'étaient pas intéressés de manger de ce légume bizarre qui était une couleur terre, qui avait une couleur jaune bizarre à l'intérieur. Donc le responsable à l'époque, je crois que c'était Turgot, a décidé de mettre des pommes de terre dans le champ de Mars, de planter des pommes de terre et de mettre des soldats autour du champ de Mars pour empêcher les gens de prendre ces pommes de terre. Les gens se sont dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils interdisent? Ils mettent des gendarmes, ils mettent des hommes en armes pour nous empêcher de toucher à ces légumes. Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans. Et bien sûr, les soldats avaient comme consigne de fermer l'œil et de laisser passer les voleurs. Et c'est ainsi que le peuple de Paris a découvert qu'on pouvait faire des tas de choses avec les pommes de terre. Et de la même façon, nous avons des fautes. Si on nous dit de ne pas faire quelque chose, si la Bible nous dit qu'une chose est interdite, nous allons avoir tendance à vouloir faire cette chose. Et ça, tous autant que nous sommes, même les personnes les plus respectables, même les pasteurs, même les hommes politiques, même les professeurs, même les gens qui ont pignon sur rue, comme on dit aujourd'hui, ont cette nature de pécheur à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette nature de pécheur, elle nous a été communiquée de façon héréditaire par notre ancêtre Adam. Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, et le mal est venu dans la race humaine et il se transmet, qu'on le veuille ou non, à nos enfants. Même ces petits-enfants qu'on a parmi nous aujourd'hui, même ce petit Esteban et ce petit Benjamin, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, ils ont hérité de leurs parents, désolé, qui l'ont hérité de leurs parents à eux, désolé aussi pour les grands-parents, qui l'ont hérité ainsi de suite jusqu'à Adam et Ève, de cette nature qui dit que je veux qu'on s'occupe de moi et qu'on s'occupe de moi tout de suite. C'est pour ça qu'ils piquent des colères lorsqu'on ne s'occupe pas d'eux tout de suite, qu'ils veulent être changés tout de suite. Et lorsqu'ils ont cette volonté égoïste d'être servis, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Si on leur donnait un bouton rouge qui sonne et qui met la panique dans toute la maison, croyez-moi, ils l'utiliseraient. Ils le font par leur cri, ils le font par leur colère. Pas d'accord ? Cette nature, c'est la vieille nature dont nous héritons. Et il est dit que nous marchions, c'est-à-dire que nous, c'est pas quelque chose que nous faisons accidentellement. Naturellement, nous sommes enclins à vivre dans le péché selon le cours de ce monde. Le cours de ce monde, c'est-à-dire la façon de vivre de notre société qui rejette Dieu. Selon, on est influencé par le monde. Il y a trois ennemis pour un chrétien. Il y a cette vieille nature, cette nature de pécheur, qui fait que on ne pêche pas parce qu'on vole un vélo, on va voler un vélo parce qu'on est un voleur de vélo au fond de nous-mêmes et qu'on a cette nature de pécheur. Ça, c'est notre vieille nature. Il y a ensuite ce qu'on appelle le monde. Le monde, c'est le système autour de nous, le système de valeurs qui rejette Dieu. C'est ce qui se manifeste par la mentalité autour de nous, la mentalité non chrétienne, la mentalité qui pense qu'on doit être le premier partout, qu'on doit s'occuper de nous, on doit être riche, on doit être en bonne santé. C'est le système qu'utilise la publicité, qui nous dit vous aussi, vous avez droit à avoir une grosse voiture qui va polluer, mais peu importe, ça on vous le dit pas, mais ça va impressionner les autres. Et puis le monde, ce système de valeurs, il est manipulé par Satan. Satan, il en est ici question lorsqu'il est question du prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On a parlé la semaine dernière de cet ange de lumière qui s'est révolté contre Dieu. et qui a entraîné à sa suite d'autres anges, un tiers des anges, nous est-il dit dans la Bible, des êtres qui avaient été créés pour servir Dieu. Et eux aussi, leur essence, c'était de Satan et de ses anges qui se sont rebellés, c'était cet esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, cet esprit de rébellion. Nous sommes des hommes morts, nous sommes des hommes manipulés, dominés par la société, c'est l'influence de ce monde, par Satan, c'est le prince de l'air, de la puissance de l'air, et par notre nature de pécheur. Ça, c'est ce que la Bible, des fois, appelle la dépravation totale. Ça veut dire que tous les hommes, aussi beaux, aussi généreux, aussi merveilleux soient-ils, ils sont aux yeux de Dieu complètement dépravés. Ça ne veut pas dire ce concept de dépravation totale que nous sommes tous aussi mauvais que nous le pourrions. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des choses qui sont bonnes aux yeux de Dieu, mais ça veut dire que nous sommes tous teintés, nous sommes tous entachés par ce péché qui nous a tous affectés. Nous sommes tous affectés, que ce soit dans notre intelligence, que ce soit dans notre volonté, que ce soit dans nos actes. Ce péché originel nous a pollués. Nous sommes des êtres pollués. Et nous sommes des êtres désobéissants. Paul, après avoir parlé des autres, il se met dans le nombre, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, c'est-à-dire ces désirs mauvais de notre vieille nature. Nous exécutions les volontés de notre chair, c'est-à-dire notre vieille nature, de nos pensées, nos mauvaises pensées. Et par nature, nous sommes des enfants de colère, comme tous les autres. » Et je sais que souvent, le premier pas pour arriver à Dieu, c'est de reconnaître ce mal qui est en nous. La tendance est de dire que je ne suis pas si mauvais que les autres. Je suis comparé à Hitler ou quelqu'un qui a fait des crimes terribles. J'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais violé personne. Je n'ai jamais volé une banque même. Et donc, je suis bien mieux que les autres. Je ne peux pas dire que je suis un enfant aussi mauvais que le plus mauvais des hommes. Mais pour Dieu qui attend la perfection, qu'on ait tué quelqu'un ou qu'on ait volé un trombone au travail, ça participe de cette même nature. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose de voler un trombone ou de tuer quelqu'un, mais quand Dieu attend la perfection, cette perfection, elle n'est plus là, et qu'on soit à côté du cochonnet ou qu'on soit à 50 mètres du cochonnet, on n'a pas atteint cette perfection que Dieu attend de nous. Ça, c'est l'arrière-plan. Vous avez peut-être vu des fois, surtout si vous aimez les bijoux, lorsqu'on met, pour vous les dames, peut-être pour les messieurs aussi, souvent lorsqu'on présente une jolie bague, un diamant sorti sur une jolie bague en or ou en platine, lorsqu'on va la présenter, on va la mettre dans un petit étui, et l'étui, en général, il va avoir une couleur sombre. Ça va être un beau rouge grenat, ça va être un vert foncé, pour que la beauté du bijou ressorte, la lumière luit mieux dans l'obscurité. Donc, après avoir vu cet arrière-plan déprimant, on va voir maintenant l'autre côté de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à partager avec les gens auxquels vous voulez présenter l'Évangile. C'est leur dire que moi aussi, j'étais quelqu'un de pas bien. Je commettais des péchés, même si ce n'était pas des péchés extérieurement visibles, ça pouvait être dans mes pensées. Un péché, c'est aussi quelque chose qu'on pense. c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas. C'est pas seulement de tirer sur le banquier pour lui voler son coffre. Et là, il y a un passage qui commence avec « Mais Dieu ». Et dans la Bible, vous pouvez rechercher tous les passages qui commencent par « Mais Dieu » et vous allez voir qu'ils sont nombreux. Parce que souvent la Bible nous décrit une condition désespérante et puis elle met en contraste ce que Dieu a fait pour nous. Et ça commence souvent par ces deux mots « Mais Dieu ». Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Nous étions morts, ça ne veut pas dire que nous étions morts physiquement, puisque nous sommes vivants, mais la mort, c'est avant tout une séparation. Nous sommes maintenant séparés de Béranger. Il nous a été repris par Dieu, nous sommes séparés de lui. Et c'est cette séparation qui est douloureuse. Si nous connaissons Jésus, nous pouvons être certains que cette séparation ne sera pas éternelle. Nous allons retrouver Béranger. Et ça, c'est un merveilleux espoir pour ceux qui l'ont aimé et connu. La mort dont il est question ici, c'est une mort spirituelle, c'est une séparation de notre âme, du plus profond de notre être, d'avec Dieu. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, « Ne touchez pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » On sait comment Satan, sous la forme d'un serpent, a tenté Ève et Adam, qui ont pris le fruit et qui ont, à ce moment-là, la mort est entrée dans la race humaine avec le péché. Alors, ils ne sont pas morts sur le coup, mais il y a eu une séparation de leur âme, du plus profond de leur être, d'avec Dieu. Et c'est ça, la mort. Nous étions morts par nos fautes, et Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il est riche en miséricorde, il nous a sauvé. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Ça, c'est merveilleux. Imaginez de voir aujourd'hui si Béranger était ressuscité et qu'il était parmi nous. Quelle serait notre réaction? Nous serions complètement émerveillés. Nous appellerions les journaux, nous dirions à tous nos amis: Dieu a fait un miracle. Dieu fait ce miracle. Lorsque vous venez à le connaître, lorsque vous venez à connaître sa réalité, son existence, il vous rend à la vie. Il vous rend à la vie spirituelle. Votre esprit, le plus profond de vous-même, votre âme, peut de nouveau être en relation avec Dieu. Ça, c'est peut-être le plus grand miracle. Parce qu'on sait que même les personnes qui ont pu revenir à la vie, finalement, nous sommes appelés à une nouvelle vie avec Dieu. Et la vie physique, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une vie éternelle avec Dieu qui nous attend si nous venons à lui. Nous avions vu comment Dieu avait manifesté sa puissance extrême, non pas par la création des cieux. On a essayé de comparer la paume de notre main, qui fait 20 cm, à la création, à l'univers, qui fait des milliards de kilomètres. On en a déduit en faisant des mathématiques anecdotiques, plutôt pour essayer d'avoir des ordres de grandeur, que par rapport à Dieu, nous sommes des milliards de fois plus petits, plus impuissants. Ça, c'est la puissance de Dieu, ça a été de mettre en œuvre et en orbite cet univers qui est prodigieusement grand. Mais la puissance qu'il a manifestée, l'exemple même de la grandeur de sa puissance, c'est le fait qu'il a ramené Jésus-Christ à la vie, qu'il a vaincu la mort physique. et que non seulement il l'a ressuscité sur la terre, mais qu'il l'a fait monter dans les cieux, et que maintenant Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et nous avions dit qu'il y a maintenant un homme comme vous et moi dans la gloire. Et Paul nous continue dans la même idée en disant que Dieu, qui est riche en miséricorde, qui a plein d'amour, qui ne nous donne pas la punition que nous méritons, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités avec le Christ. Il le dit au passé, parce que Dieu se place en dehors du temps et il ne nous voit pas assis sur des chaises en plastique au 10 avenue Aimé Martin. Il nous voit assis déjà avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes, nous aussi, non seulement nous avons été ressuscités, mais verset 6, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas nos mérites qui nous permettent d'avoir retour à la vie. Il nous a rendus vivants avec Christ, il nous a élevés avec Christ, et maintenant nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il y a un autre passage que nous avions étudié dans Galates, que si nous mettons notre foi en Christ, nous avons été crucifiés avec Christ, mais non seulement nous avons été crucifiés, mais nous avons été ressuscités, et maintenant c'est une réalité qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre. Si nous sommes chrétiens, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous avons une position d'autorité, nous avons une position d'éternité, nous avons une position de joie ineffable, de joie que rien ne peut nous enlever. La joie lumineuse que Béranger avait dans sa vie, qu'il rayonnait si bien, c'est parce qu'il avait compris ces choses-là. Il savait qu'il avait la victoire éternelle sur la mort et qu'il allait vivre pour toujours avec Dieu et avec les gens qui aiment Dieu. C'est intéressant, on peut dire que c'est à cause de son amour, que par son amour que Dieu nous a sauvés, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il nous a sauvés, et ça c'est un verset que vous pouvez mémoriser, les versets 8 à 10. Si vous mémorisez quelques versets dans la lettre aux Éphésiens, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à mémoriser tout le texte, et je les en félicite et je les encourage, je vous encourage à essayer de le faire. Si vous n'avez pas l'énergie ou la mémoire pour mémoriser tout un passage, je vous invite à mémoriser les versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'amour, on pourrait penser que c'est l'amour qui fait que Dieu nous a sauvés. Mais Dieu, qui est amour, c'est une de ses caractéristiques, des composantes de son essence, il est amour. Mais une de ses autres caractéristiques, c'est qu'il est juste. Il est parfaitement juste et il ne peut pas tolérer ce qui est mal. Et l'amour ne pourrait pas suffire à nous sauver. Parce que l'amour qui dirait « bon, c'est bon, je vous prends, je vous reçois », dans ces conditions sera en contradiction avec la justice de Dieu, envers le fait qu'il est, il ne peut pas se dédire et dire que le péché n'est pas grave. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu recours à la grâce, c'est cette faveur que nous ne méritons pas, parce que quelqu'un d'autre a pris la punition que nous méritons. Jésus-Christ est mort sur la croix, et il est dit qu'il a été fait péché pour nous. Il est Lui qui était parfait, qui était homme et qui a vécu une vie parfaite, lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés. C'est difficile à concevoir. Vous pensez à tout ce qui vous révolte, la corruption, la violence, le mensonge, l'amour de l'argent, toutes les choses qui font les gros titres dans nos journaux, toutes ces choses horribles, Jésus-Christ les a prises sur lui et lui a été puni à notre place. Et la justice de Dieu a été satisfaite. Il a fallu que quelqu'un prenne la punition de nos péchés. Et ce qui nous sauve, c'est donc cette grâce qui, bien sûr, a été motivée par l'amour de Dieu, mais il a fallu qu'il y ait amour et justice satisfaits. Et c'est la grâce. Cette grâce que nous avons du mal à comprendre parce que dès le plus jeune âge, on nous dit « si tu fais bien, tu auras quelque chose de bien ». Là, Dieu nous fait un don, quelque chose que nous ne pouvons pas mériter. Si on pouvait mériter, alors nous aurions tendance à nous glorifier. Si c'est parce que j'arrive à l'heure le dimanche, si c'est parce que je viens à toutes les réunions de prière que j'étais sauvé, alors devant les autres, je leur dirais « vous n'êtes pas sauvé, mais moi qui me lève tous les matins, tous les mardis matins à 6 heures pour être à l'heure à la réunion de prière, qui vient à la réunion de prière du mercredi soir, qui vient à toutes les réunions, moi je suis sauvé. » On aurait cette tendance à nous glorifier de nos bonnes œuvres. Non, là c'est un don. Dieu, dans son amour, nous fait ce don. Il nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était un homme parfait, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu qui s'est incarné pour nous montrer ce que l'homme devait être. Il est mort et nous ne pouvons pas nous en vanter. Paul explique en fait pourquoi Dieu nous sauve. Il nous sauve bien sûr parce qu'il nous aime et il ne veut pas que nous soyons pour toujours séparés de lui. Mais on peut voir deux buts dans le salut. Au verset 7, Dieu nous a sauvés, nous a ressuscités ensemble, fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Le but ultime de Dieu, on peut penser que c'est peut-être un peu comme un peu égoïste, un peu recherche de gloire, mais Dieu cherche à montrer sa gloire. Dieu est glorieux et il veut que l'Église, pour l'éternité, ce peuple qu'il a racheté, soit un témoignage de sa gloire, de sa grâce, de la richesse surabondante de sa grâce. On vit dans un monde où il n'y en a pas pour tout le monde. Si on donne de l'argent à une certaine catégorie de ministères, il ne va plus en avoir assez dans les autres, à moins qu'on ponctionne encore les contribuables. On vit dans un monde de richesses finies. Donc on a l'habitude de se dire que si quelqu'un est béni, quelqu'un d'autre va être moins béni parce qu'il ne va pas y avoir assez de bénédictions. Mais Dieu, dans son économie, il a une grâce qui est surabondante, il l'a en pleine richesse. Il ne manque jamais de grâce. On raconte l'histoire d'une femme qui était pauvre et qui, en voyant pour la première fois des amis, l'avait invitée à venir au bord de la mer, au bord de l'océan. Et elle était émue jusqu'aux larmes. Et ses amis lui ont dit « Mais pourquoi pleures-tu ?» Elle leur a dit « C'est la première fois que je vois quelque chose qui n'est pas limité. » Elle voyait l'étendue, l'immensité de l'océan, Et ça, c'est une bonne idée, une bonne image de la grâce de Dieu, de la richesse de la grâce de Dieu. Nous, on pense en termes de verre d'eau, on pense en termes peut-être de bouteilles, de bonbonnes, de baignoires. La grâce de Dieu, elle est plus grande que les plus grands océans. Il y a des kilomètres cubes, des milliers de kilomètres cubes de richesse, de grâce de Dieu. Et Dieu, qui vit dans la gloire, il veut nous montrer à tous ceux qui ne seraient pas encore capables de le... à ses anges, aux autres créatures, il veut montrer comme un trophée. On montre des fois, vous savez, les chasseurs, il y a peut-être des chasseurs parmi nous. Si on attrape un daim ou un beau cerf, on va lui couper la tête, on va l'empailler, on va la mettre comme un trophée. Quelque part, Dieu a ce but de nous montrer comme un trophée de sa grâce. Alors on peut penser que c'est un peu mesquin, c'est un peu orgueilleux, mais dans la mentalité de Dieu, non, c'est pour montrer son amour, c'est pour montrer qu'il a créé les hommes et qu'il avait des plans merveilleux pour eux que personne n'a pu déranger. Dieu veut nous montrer, il a ce but ultime, et puis il a un but immédiat. Et ce but, ce dessein, c'est le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Le terme en grec, c'est le mot poème. Nous avons été créés comme un beau poème. Et lorsque nous pensons à chacun de nous, on le voit, on disait, c'est les meilleurs qui s'en vont, en parlant de notre cher Béranger qui nous a tragiquement quittés. Et on disait qu'en fait, chacun de nous, nous avons des qualités, nous avons des choses précieuses. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes un poème. Nous sommes beaux. Il y a une beauté parce que Dieu nous a créés. Ce n'est pas une beauté parce que nous sommes des hommes qui avons des capacités, que nous pouvons nous perfectionner. Non, la beauté, elle est la beauté qui est un reflet de la beauté de notre Créateur. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. On n'est pas venu ici pour être sauvé et partir tout de suite pour être avec Dieu. Il veut nous utiliser pour des bonnes œuvres. Alors, le terme de bonnes œuvres, des fois, peut avoir un caractère presque péjoratif. On pense aux bonnes actions des scouts. Les bonnes œuvres, c'est tout l'œuvre, tout le travail que Dieu veut que vous accomplissiez dans votre vie. Vous n'êtes pas créé au hasard. Dieu a des desseins pour chacun de nous. Et il a de bons plans, nous dit le prophète Jérémie, dans Jérémie 29, 11 et suivant. Il a un plan pour nos vies. Et la chose la plus merveilleuse, c'est d'entrer dans ce plan. Parce que si c'est le plan de Dieu, alors il va produire du fruit. Dieu va vous donner les ressources nécessaires. Il va vous donner l'énergie, la persévérance. Et votre vie va compter pour quelque chose. Et ces œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance, depuis très longtemps, avant même la fondation du monde. Et nous sommes là, nous cherchons les études que nous devons faire, nous cherchons le travail que nous devons embrasser, la carrière que nous devons choisir, la personne que Dieu nous a destinée, si nous souhaitons nous marier, alors que Dieu, en fait, a déjà tout prévu. Et si nous cherchons à faire sa volonté, si nous en remettons à lui pour trouver son désir pour nos vies, alors je peux vous promettre que vous allez rentrer dans une vie qui va être riche, une vie parce qu'elle va avoir un sens. Vous allez trouver votre destinée. Et ça, quoi que vous fassiez, Dieu est économe et il vous a placé là où vous êtes dans votre vie. C'est pas parce qu'il vous a laissé la bride sur le cou et que maintenant vous vous retrouvez à des milliers de kilomètres de votre destination. Dieu, si dès le moment où vous revenez à lui, il a toute liberté, toute puissance pour vous diriger là où il veut. et il peut vous garder là où vous êtes, il peut faire de vous un meilleur employé, il peut faire de vous un meilleur patron, il peut faire de vous un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur père, une meilleure mère. Ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette, ce n'est pas nécessairement d'être travailleur à temps plein. Vous êtes des travailleurs à temps plein pour le Seigneur, quoi que vous fassiez. Vous êtes des témoins. Faites savoir aux autres que vous croyez en lui. Expliquez pourquoi, parce que vous pouvez commencer simplement avec Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est déjà un verset qui va bouleverser les gens qui n'ont jamais rien entendu de la Bible. Vous pouvez aimer les gens, leur donner soif de croire à ce que vous leur dites croire. Si vous leur dites que vous croyez en un Dieu d'amour et que vous-même, vous êtes quelqu'un qui ne les aide pas, qui ne les aimez pas, ils n'auront pas envie de croire au Dieu dont vous leur parlez. Et ces œuvres qu'il a préparées d'avance, il veut que nous les pratiquions. Il veut que nous les achevions, que nous les... Il ne s'agit pas de dire « Oui, je pense que Dieu m'a appelé à être un... à témoigner de ma foi et de ne jamais le faire. » Si vous pensez que Dieu vous appelle à partager votre foi avec vos voisins, faites comme Béranger le faisait, témoignez de votre foi. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'intimidant. Soyez des gens pleins d'amour. Encore une fois, c'est le meilleur témoignage pour le monde. De savoir que vous êtes les disciples de Christ, ce n'est pas par la grosseur de la Bible que vous portez, ce n'est pas par l'étiquette, l'autocollant que vous collez sur votre voiture, ce n'est pas par les costumes, ce n'est pas par le fait que vous venez à la messe le dimanche ou à l'église le dimanche. C'est par l'amour que vous portez, que nous nous portons les uns aux autres et que nous portons à ceux qui nous entourent. Ça, c'est un des plus grands passages qui explique que nous sommes sauvés et que ce salut, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Et comme on l'expliquait dans cette étude sur le témoignage, si je vous fais un cadeau, si par exemple je vous offre quelque chose qui vous ferait plaisir, quelque chose que vous aimeriez recevoir, quelque chose qui est peut-être représente beaucoup d'argent pour vous, ça peut être pour l'un, ce sera peut-être un scooter, pour l'autre ce sera une guitare. Si je vous offre ce cadeau, est-ce que vous êtes obligé de l'accepter ? Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter un cadeau, mais une fois que vous l'avez reçu, je ne veux pas que vous commenciez à m'envoyer un chèque de 50 € tous les mois. Ce ne serait plus un cadeau, ce serait un achat à crédit, un achat à tempérament. Beaucoup de chrétiens reçoivent le don du salut, mais ils essayent ensuite de mériter ce don. Ils font des bonnes actions en pensant mériter, impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres. Il nous a fait ce don, à nous de le recevoir ou de le rejeter. Le choix est entre nous, nos mains. Et Paul va continuer en expliquant le sens de l'Église. Mais l'Église est d'abord faite de pierres vivantes. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, même si nous cherchons à finaliser la vente, l'achat de ce bâtiment. Nous avons besoin de locaux pour nous réunir, pour exercer des ministères. Mais l'Église, ce sont des pierres vivantes. C'est vous et moi, si vous avez été ramenés à la vie avec Christ Jésus et si vous êtes établis dans les lieux célestes. Et l'Église, si elle est constituée de pierres vivantes qui réalisent que c'est Dieu qui les a sauvés par la grâce au moyen de la foi, alors elle est prête à faire les œuvres que Dieu attend d'elle et elle a de l'impact. Elle va changer le monde. Maintenant, c'est le monde trop souvent qui influence l'Église alors que Dieu veut que l'Église influence le monde.